Radio Okapi. Okapi. À la une de l'actualité, le Nord Kivu, les forces armées de la RDC contrôlent l'axe Goma-Rutshuru, longtemps occupé par les combattants du M23. Un calme relatif y règne. Le porte-parole des FARDC annonce la réouverture du transport en commun sur cet axe depuis hier après-midi. Moïse Katumbi demande au ministre national des Mines de décider de fermer les entreprises minières qui ne payent pas leurs taxes. Cette situation fait suite à l'appel lancé par le coordonnateur de l'ICIE pour l'implication des autorités politiques du Katanga. À l'Équateur, la Caritas Ikela s'investit dans l'accès à l'éducation à toutes les couches sociales du territoire d'Ikela. Plus de 14 000 jeunes et enfants de 12 à 18 ans de ce territoire vont bénéficier d'une prise en charge scolaire. Bonjour, avant d'aller plus loin, notez que des crépitements d'armes légères et lourdes ont été entendus depuis 3 heures locales à Lubumbashi, au Katanga. Selon les premiers témoignages, les tirs proviendraient d'un dépôt probablement d'armes dans la commune de Kapemba. À 5 heures locales, les tirs ont cessé et on a constaté une forte présence militaire dans certains quartiers comme Bel Air. Des fouilles dans des véhicules ont été également organisées. Nous y reviendrons dès que nous aurons d'autres détails. Direction le Nord Kivu. Un calme relatif est observé sur l'ensemble du territoire de Rutshuru. Les forces armées de la RDC contrôlent désormais plusieurs localités de ce territoire. Le porte-parole des FARDC, colonel Olivier Amouli, indique que l'ennemi reste toujours étranché vers Bunagana et Runyoni à la frontière entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Il annonce également la réouverture du transport en commun de l'axe Goma-Rutshuru depuis hier après-midi. Gisèle Cage.
Les forces armées de la RDC assurent la sécurité totale de cet axe, longtemps occupé par les combattants du M23. Ces derniers sont actuellement localisés à Bunagana, Chanzo et Runyoni, où ils se sont réfugiés à l'issue des combats de 4 jours avec les FARDC. Entre-temps, c'est un calme relatif qui règne dans toute la zone, passée entre les mains des forces régulières. Le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC, rassure les populations de Rutshuru que la contre-attaque sera menée incessamment contre le rebelle du M23 dans leur retranchement, le temps que les FARDC se réorganisent. Olivier Amouli appelle à cet effet les combattants du M23 de se libérer et de se rendre au FARDC ainsi qu'à la MONUSCO. Des scènes de liesse sont signalées dans toute la région de Rutshuru où l'on signale la présence de l'armée régulière. C'est notamment à Rumongabo, Katale, Rubare, Kiwanja, Kako, Kalengera et Chingerero, Goma, Gisèle Cajo, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, la MONUSCO vient de décréter la fin de toute cohabitation de ses bases avec les groupes armés. L'annonce est du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC hier lundi, Martin Kobler, qui a visité encore une fois Kiwanja et Rutshuru en compagnie du gouverneur du Nord Kivu, invite les groupes armés à déposer leurs armes car la MONUSCO a déclaré ne plus avoir pour voisins des éléments des groupes armés. Face aux appréhensions de la population qui craint un éventuel retrait des FARDC pour ses déplacements aux rebelles, le patron de la MONUSCO déclare que cela ne se reproduira plus. Martin Kobler est au micro de Rosalie Zawadi.
C'est naturellement très bien de voir des yeux heureux de la population et de vraiment sentir qu'ils sentent bien que le M23 est parti. La paix est fragile, mais c'est pourquoi c'est très important de rester ici maintenant avec la brigade d'intervention. Jusqu'à maintenant, on avait ici des casques bleus, puis on a eu une certaine cohabitation avec le M23. Je suis arrivé ici il y a 2 mois et demi et le M23 était là. Dans ce bâtiment. Et c'est la cohabitation. Hein? C'est fini. C'est la fin de la cohabitation maintenant avec les groupes rebelles. Pendant les crises, j'ai 5-6 fois contact avec l'envoyé spécial du secrétaire général, avec le quartier général. Je crois qu'on a maintenant des conditions qui sont bien pour avoir les assurances, pour l'irréversibilité. Je comprends très bien que les gens pensent que l'histoire ne doit se répéter.
Le ministre de la Défense de la RDC, Alexandre Loubantambo, a appelé lundi les rebelles du M23 à se rendre. Il a affirmé à l'AFP que l'armée ne reculerait devant rien pour défendre le territoire national. Selon lui, il n'y avait pas de limite en ce qui concerne la défense des institutions et du territoire national, sans donner d'autres davantage de précision. À propos de Kampala, le ministre de la Défense a déclaré que Kinshasa n'avait pas fini avec Kampala et que le gouvernement était toujours ouvert à des solutions pacifiques. Au Katanga, le gouverneur de cette province demande au ministre national des Mines de fermer toutes les entreprises minières de la province qui ne payent pas de taxes. Ceci fait suite à l'appel lancé par le coordonnateur national de l'ITIE aux autorités provinciales de s'impliquer pour que les entreprises qui n'ont pas encore déposé leur formulaire de preuve d'audit de le faire dans un bref délai au risque de voir le pays d'être radié pour toujours du rapport de l'ITIE 2011. Pour Moïse Katumbi, les entreprises minières sont auditées par le gouvernement central. Leurs permis d'exploitation et d'exportation leur sont remis par le gouvernement central qui les contrôle. On écoute Moïse Katumbi au micro de Jean Guindou.
Je remercie le comité de l'ITIE. C'est grâce au gouvernement provincial qu'ils sont venus s'installer au Katanga parce qu'on voulait travailler en toute transparence. Mais je demanderai au ministre national de Mines qui octroie le permis d'exportation et le permis d'exploitation. S'il y a des incivils qui continuent à œuvrer chez nous sans avoir donné le compte audité, c'est le même ministre national de Mines qui envoie aussi des gens pour contrôler toutes ces sociétés. Moi, je vais écrire au ministre. Il n'a qu'à prendre une décision de fermer toutes ces sociétés parce que nous voulons aller de l'avant. Nous voulons travailler en toute transparence.
Le Katanga ne sert pas au judiciaire.
Mais nous n'allons pas rester avec des gens qui ne veulent pas payer les taxes à l'État. Parce que c'est lui le ministre qui donne les licences et c'est le même ministre national de Mines qui peut retirer toutes ces licences. Le gouvernement provincial ne contrôle jamais les sociétés minières.
Parlons justice à présent. Encore un deuxième renvoi dans l'affaire de viol sur des mineurs à charge de jeunes Diomine Dongala. Le président de la démocratie chrétienne a comparu hier à la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour de cassation. À la suite d'une exception de procédure soulevée par la défense, la Cour a renvoyé l'affaire au mois de février prochain. Le conseil de l'opposant a plaidé pour la comparution du co-prévenu de Diomi en la personne de Nsoni Nzao, poursuivi pour les mêmes faits, mais dont l'adresse physique reste inconnue. L'avocat de l'opposant explique ici les règles procédurales sur cette exception. Maître Richard Bondou est au micro de Jeff Ngoy.
Monsieur Nsoni Nzao n'a pas été régulièrement cité par le ministère public pour venir comparaître à l'audience de ce jour. L'exploit a indiqué qu'on s'est transporté chez le bourgmestre, mais comme l'article 4 du code de procédure civile qui est le tronc commun de droit de procédure n'a pas été respecté par le bourgmestre qui devait rechercher ou faire rapport à la cour, qu'il a été recherché et a déposé l'exploit de la cour entre les mains de Nsoni Nzao, la cour s'est trouvée devant un vide. Et c'est devant ce vide de procédure que la Cour s'est accrochée à l'article 61 du Code de procédure pénale. Lorsque le prévenu n'a pas été atteint, la juridiction de jugement a décidé de renvoyer la cause pour régulariser la procédure vis-à-vis de Nsoni Nzao.
Rendons-nous à présent dans la province de l'Équateur pour parler éducation. Plus de 14 000 jeunes et enfants du territoire d'Ikela vont bénéficier d'une prise en charge scolaire à partir de ce mois. Annonce faite hier lundi par le chef de projet d'amélioration de l'accès des enfants à l'école de la Caritas Ikela lors de la cérémonie du lancement officiel de ce programme. Ikela est situé à 1014 km à l'est de Mbandaka. Pour Félix Loukeku, l'objectif est de permettre l'accès à l'éducation à toutes les couches de la population de ce territoire. Le pourquoi de ce programme avec Willy Akonda Lomanda dans ce reportage de Victor Lokwa de la radio Ikela.
Ce programme concerne les enfants de 12 ans et plus de 5 secteurs du territoire d'Ikela. Pour le responsable local de ce projet, on retrouve près de 6000 filles sur le 14 jeunes enregistrés. Les élèves de 12 à 18 ans seront pris en charge dans les écoles secondaires les plus proches. Ceux de plus de 20 ans vont suivre des cours spéciaux et accélérés dans les écoles de rattrapage. Pour Félix Loukeku, il s'agit des enfants non scolarisés, recensés par plus de 200 associations féminines après 7 jours d'identification. Pour la coordonnatrice diocésaine de Caritas, on a plus visé les enfants dont les parents sont vulnérables, les enfants orphelins, mais aussi ceux travaillant dans les carrières minières. D'après elle, 40 agents ont été déployés pour recueillir toutes ces données. L'enveloppe globale n'a pas été révélée, mais la récolte des données a coûté plus de 1 600 $ américains.
Voilà, c'est la fin de cette première édition du journal qui a été coordonnée par Martin Sebujangou et Thérèse Kankou. La mise en onde assurée par Paul Bazianyama. Vous pouvez réécouter ce journal sur radiocapi.net.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.